direction de son pasteur Emmanuel Koum, vous convie tous les mardis entre 20h30 et 21h30 à une réflexion sur la vie chrétienne aujourd'hui. Au rythme de Dieu, c'est les messages, prédications, enseignements, débats, conférences, interactivités, le tout arrosé par de la très bonne musique. Notez le rendez-vous mardi 20h30, 21h30. Venez et ensemble, marchons à la suite de Jésus.
Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Chers amis auditeurs, nous vous saluons ce soir dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Alors qu'il est 20h passé de 33 minutes sur la fréquence de Villa 107.8 FM, nous vous souhaitons la bienvenue à votre programme hebdomadaire au rythme de Dieu. Au rythme de Dieu, c'est un programme qui vous est préparé et présenté par la Cameroun Baptist Convention, communauté Israël Makepe. Tous les mardis de 20h30 à 21h30, une heure où nous communions avec le Seigneur au travers de sa parole, une heure durant laquelle le Seigneur nous rafraîchit, nous interpelle, et également il nous reprend afin que nous soyons prêts et affermis pour tout point neuf dans l'attente de son retour. Ce soir à la mise en œuvre notre bien-aimé Désiré Tchouya, qui salue tous les auditeurs. Et dans ce studio, nous sommes avec le pasteur Noengachu. Bonsoir, pasteur.
Bonsoir, William, et bonsoir à tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Que la grâce et la fidélité de notre Dieu soient votre partage.
Amen. Au microphone de présentation de ce soir, je suis votre bien-aimé serviteur, William Domché, fils d'un Obissi, enfant de Jésus-Christ. Ce soir, bien-aimé, nous allons partager autour du thème des épreuves. Les épreuves qui sont incontournables dans notre marche chrétienne, mais qui très souvent sont plutôt sujet de la perte de plusieurs. Nous allons partager ce soir autour de ce thème, mais avant toute chose, vous prions, bien-aimés, de pouvoir partager ces instants avec nous, ces instants de contemplation de la grâce du Seigneur, cet instant d'invocation de sa présence, afin que ses grâces soient davantage déversées dans nos vies. Dans le lieu dans lequel tu es, cher ami auditeur, le Seigneur veut te visiter ce soir et sous cette heure musicale, communier à la présence du Seigneur.
Et le désir de Dieu, c'est de pénétrer ta vie, c'est de te remplir, c'est de descendre dans ta vie, de te restaurer, de descendre dans sa sainteté pour se manifester pour toi. Il veut changer ta vie. Il veut t'apporter un rafraîchissement nouveau. Il veut que ton existence soit renouvelée et transformée par son Saint-Esprit qui est déversé sur tous ceux qui croient au Fils de Dieu. Si simplement tu ouvres ton cœur ce soir et si tu te disposes devant lui, il descendra pour toi.
Seigneur, nous élevons nos voix vers toi ce soir. Seigneur, nous contemplons ta face. Seigneur, au-delà de tout ce qui s'est passé au long de la journée, des hauts et des bas, Seigneur, nous savons qu'en toi, nous avons le repos.
Oh Jésus.
Et vers toi, Seigneur, nous tournons nos cœurs. Seigneur, vers toi, les auditeurs tournent leur cœur afin de pouvoir recevoir de toi, afin de pouvoir recevoir un rafraîchissement, afin de pouvoir être renouvelés, Père éternel, dans leur force. Grand Dieu, merci parce que tu le galvaniseras encore ce soir. Merci parce qu'encore par la puissance de ton esprit, par la puissance de ta parole, Seigneur, des vies vont être changées, des vies vont être challengées, et la gloire te reviendra à toi, le Seigneur de gloire. Louange et majesté à toi. Seigneur, visite ces lieux. Seigneur, visite le lieu où se trouve chacun, Père éternel, qui a l'écoute de ce programme. Seigneur, que ta lumière éclairée puisse chasser, Père éternel, toute ombre, Père éternel, des soucis de ce monde. Toute ombre, Père éternel, que peut apporter le péché, les inquiétudes. Dans ta main, Seigneur, tiens cachés tes enfants. Merci parce que tu vas nous bénir ce soir.
Que ta bonté soit proclamée.
Et Seigneur Jésus, tu as dit aux pharisiens, si les disciples se taisent, les pierres crieront à leur place. Nous voulons crier à ta majesté, Seigneur, ce soir. Nous voulons crier à ta sainteté, à ta grande majesté qui vit et qui règne à jamais. Seigneur notre Dieu, dans ta gloire, viens maintenant, unis ton peuple. Rassemblés autour de cette radio, rassemblés autour de ces instants. Seigneur notre Dieu, unis-nous à l'écoute de ta parole. Change nos cœurs. Donne-nous, Seigneur notre Dieu, de regarder vers la même direction, de nous pardonner réciproquement et de nous aimer d'un amour sincère. Seigneur, nous voulons voir ta puissance, nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir ta victoire. Ô notre Dieu, être manifesté dans notre vie. Merci notre Dieu pour ce que tu fais. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu ne changes pas, parce que tu dis qu'invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur notre Dieu, nous t'invoquons ce soir. Toi le grand Dieu, souverainement élevé, assis sur le trône, qui est au-dessus de tous les trônes, devant qui tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse. Tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Reçois l'honneur et la gloire, Seigneur, toi qui visites ton peuple en cet instant, que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Alléluia.
Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de notre Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Chers amis auditeurs, vous êtes bel et bien à l'écoute de votre programme Au rythme de Dieu, préparé et présenté pour vous par à la Cameroun Baptist Convention sur les ondes de la fréquence de ville à 107.8 FM. Et le code d'accès dans ce studio est le 77 96 29 29. Nous partageons ce soir autour du thème des épreuves. Il est clair que c'est un terme qui revient à plusieurs niveaux dans la Bible. De façon directe comme ça, Pasteur Noé, qu'entend-on par épreuve ?
Alors, pour parler d'épreuves, il est important de jeter un regard sur ce que nous voyons dans la Bible ou sur ce que nous voyons dans le dictionnaire en ce qui concerne l'épreuve. Alors, le dictionnaire définit l'épreuve comme un événement pénible, un malheur, une souffrance qui éprouve le courage et qui fait apparaître les qualités morales. Donc ça c'est le premier sens qu'on peut voir de ce que c'est que l'épreuve. Et dans un autre sens, dans un sens second, on peut voir également l'épreuve comme un test par lequel on passe, c'est-à-dire l'épreuve c'est une opération permettant de juger quelqu'un, permettant de voir si la personne est apte à quelque chose. Alors c'est en quelque sorte ça l'épreuve. Et bien quand on est dans l'épreuve, on traverse des moments véritablement difficiles, c'est des moments de forte tribulation. Donc c'est difficile et bon, ça c'est le premier regard qu'on a de l'épreuve, peut-être qu'on verra notre axe tout à l'heure.
Ok, et est-ce qu'il est possible de dissocier cet aspect de difficulté à la marche chrétienne? Est-ce qu'il est possible de vivre une vie chrétienne, mais sans toutefois quand même avoir ces aspects difficiles, étant donné que la Bible dit que le Seigneur est venu nous accorder du repos?
Alors, l'apôtre Paul dit qu'il achève dans son corps les souffrances de Christ. Et Christ lui-même a dit, si on a fait ces choses au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Et dit par ailleurs, celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je ne pense pas que la croix soit quelque chose de facile. Je pense qu'on dit sur le chemin du calvaire, Jésus a souffert véritablement, il a souffert la douleur. C'est-à-dire la croix, ça pèse, c'est dur. Et c'est pénible, véritablement. Donc, je pense qu'il est, il est impossible. C'est, ceux qui prêchent l'évangile de la facilité et de pas de souffrance, je pense qu'ils se trompent longuement sur ce que dit la parole de Dieu. De toutes les façons, de la Genèse à Apocalypse, nous allons toujours voir les hommes de Dieu passer par les souffrances. Depuis Abraham, qui lui-même a souffert. De son fils Isaac, qui lui-même a souffert, de Jacob, qui lui-même a souffert, souffert de quelque façon que ce soit, mais tout de même, qui ont souffert de beaucoup de choses. Abraham, par exemple, a souffert d'attendre longtemps sans avoir un fils. Ça, c'était une souffrance, c'est une douleur qu'il éprouvait au fond de lui-même. Souffrir même d'avoir Sarah et sa servante Agar qui se disputent à la maison. C'est une douleur parce que ça, parfois on ne sait pas comment on va en finir avec ça. Et c'est une douleur. Donc, de toutes les façons, quand on est chrétien, on passe par les douleurs.
Mais vous parlez là des personnes qui sont passées par des douleurs, mais qui sont restées fidèles à Dieu.
Oui.
Par contre, beaucoup aujourd'hui, lorsqu'on passe par des difficultés, c'est plutôt l'occasion de mettre le Seigneur au répondeur, de dire « Seigneur, excuse-moi ». Parce que là, c'est un peu fort. Il faut que je prenne les choses en main. Plus tard, je reviendrai.
Je pense, William, que c'est pas. Il faut d'abord admettre quelque chose. C'est que la souffrance n'est pas facile à accepter. C'est-à-dire que, de façon humaine, la souffrance n'est pas facile à accepter. Et quand on en arrive à trouver des personnes qui abandonnent en chemin, on peut les comprendre, même s'il n'y a pas d'excuse à ça. On peut les comprendre parce que. La plupart qui arrivent à se décourager, c'est qu'à un certain moment, on laisse à la chair la possibilité d'être au-dessus de l'esprit. Parce que quand on laisse la chair agir de la sorte, la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Et l'esprit a des désirs qui sont contraires à ceux de la chair. Et quand on laisse la chair, ben, automatiquement, elle nous conduit vers les choses qu'elle aime bien. Puisque la chair aime le repos. La chair aime ne pas souffrir. En fait, quand, de toutes les façons, si on te blesse un instant là, la première réaction, tu vas quand même d'abord te fâcher un peu, de dire que mais, je me maîtrise d'abord. Parce que la chair, elle réagit, elle a envie de se révolter par rapport à ce qui lui arrive. Donc c'est là que quand on est dans l'épreuve, on peut facilement abandonner parce qu'on laisse la chair s'exprimer.
Donc si nous avons bien compris, vous ne parlez pas de stoïcisme, ne demandez pas, vous dites pas qu'on est chrétien, on n'est pas stoïque. C'est-à-dire qu'on ne supporte pas les souffrances sans crier, on ressent bien la douleur.
Si quelqu'un dit qu'il passe par la douleur, il ne ressent pas la douleur, je ne sais pas s'il ressent, s'il passe vraiment par la douleur. Parce que quand on passe par la douleur, ça fait mal, mais avec le Seigneur, on apprend à supporter. Soyez patient dans la tribulation. C'est ce qu'on l'apôtre Paul nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6 que nous nous rendons recommandables par beaucoup de patience dans les tribulations. C'est-à-dire qu'il y a la tribulation, ça existe, il y a la persécution. Et quelqu'un, c'est le pasteur Koum qui disait que, en fait, le diable, quand on croit, il passe par les mêmes persécutions. C'est-à-dire que quand il ne te persécute pas par tes parents qui te mettent dehors, qui te refusent à manger, c'est qu'il y a une souffrance. Il va te persécuter par tes amis, il va te persécuter par tes collègues de service. C'est une douleur que d'être dans son lieu de service et de se sentir rejeté par tout le monde, mis à part, on dit non, on ne parle pas avec celui-là parce qu'il a choisi son coin. C'est un rejet et c'est une douleur. Donc, il passe par les mêmes douleurs. Il n'y a pas de chrétien qui ne puisse pas passer par là.
Chers amis auditeurs, choisir de suivre Jésus-Christ, c'est également choisir de passer par des moments de douleur, par des moments difficiles. Selon la chair, mais que par la grâce de Dieu, nous pouvons supporter. Mais comment donc pouvoir trouver en Dieu les ressources pour tenir pendant ces moments difficile pour notre air, pour notre côté humain. Nous verrons cela après cette ponctuation musicale de Steve, après l'épreuve.
C'est vrai, je suis tombé à plusieurs reprises, mais j'ai eu le courage de me relever. Mes prières, subitement, n'étaient plus les mêmes, après l'épreuve. Voilà mon histoire, une toute petite seulement.
L'épreuve de Steve, cher ami auditeur, vous êtes toujours sur la fréquence de vie 107.8 FM et votre programme Rythme de Dieu continue son bonhomme de chemin. Certainement avez-vous qui êtes à l'écoute. Nous allons poursuivre notre partage ce soir avec notre bien-aimé pasteur Noé Ngachou et nous prions les auditeurs de pouvoir, si vous souhaitez intervenir, vous pouvez envoyer vos questions par SMS durant le message, mais les appels nous les prendrons à la fin du message, question de ne pas couper le fil des choses. Merci pour votre compréhension et merci de rester à l'écoute du programme. Que le Seigneur vous bénisse.
Père, nous te bénissons parce que c'est toi qui nous inspire, c'est toi qui nous instruis. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, que tu nous parles de par toi-même ce soir, que tu révèles ta parole et que tu permettes, notre Dieu, que nous puissions avoir un nouveau regard sur ta parole, une nouvelle façon de vivre inspirée par toi. Merci notre Dieu de parler à chacun de nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous parlons donc de l'épreuve. Alors nous avons déjà défini tout à l'heure l'épreuve comme un événement pénible, un malheur, une souffrance qui éprouve le courage, qui fait apparaître les qualités morales. Et on disait ça, c'est le sens 1 dont on a de l'épreuve. Et le deuxième sens de cette définition, c'est l'épreuve, c'est une opération permettant de juger quelqu'un. Et nous parlerons donc de l'épreuve dans ces deux sens ce soir. Alors très souvent, nous avons toujours vu l'épreuve comme le fait pour Dieu de nous faire passer par un désert, par un temps difficile, par la sécheresse, par la maladie, par le manque, par la famine, par les difficultés de tous autres. Mais on va voir l'épreuve dans un autre sens ce soir. Et nous allons lire Jacques chapitre 1, versets 2 à 4, que nous avons également lu en introduction de cette émission. Jacques chapitre 1, 2 à 4.
La Bible dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien.
Jacques définit l'épreuve. L'épreuve dans son premier sens, il le décrit véritablement comme une difficulté, mais je voudrais que nous voyons l'épreuve ce soir comme un test de Dieu. Dieu nous juge et comme le proverbe dit, on apprécie le maçon au pied du mur. Jacques nous encourage dans ce texte à être dans la joie quand nous passons par les épreuves. Donc Jacques, dans ce texte, jette le regard sur l'épreuve comme les difficultés par lesquelles nous passons. Et dans cette difficulté, très souvent, nous baissons les bras, nous nous sentons comme seuls et sans secours. À certains moments même, nous souhaitons la mort, quitter cette terre, abandonner toutes les douleurs pour aller auprès du Père. Mais sachant que l'épreuve a pour but de tester notre attachement à Dieu, notre patience, notre confiance dans le Seigneur. Il n'y a pas de vie sans difficulté sur la terre, il n'y a pas de vie sans souffrance. Si vous menez une vie chrétienne et que vous êtes confortable dans votre position, posez-vous des questions au sujet de votre vie chrétienne. Parce que quel que soit les cas, aujourd'hui ou demain, il y a toujours quelque chose qui vous fait sortir de votre confort en tant que chrétien. C'est un entourage qui vous persécute parce que vous agissez d'une certaine façon. C'est peut-être des collègues de service, c'est un papa ou une maman ou un parent qui se conduit d'une certaine façon, qui persécute et qui trouble votre tranquillité, votre paix, votre statut paisible dans votre coin. Et c'est une persécution, donc c'est une épreuve, c'est une souffrance qu'on vous amène à vivre. Mais sachant que l'épreuve teste notre attachement donc avec Dieu. Et la Bible nous dit dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 1 au verset 12, « Heureux celui qui supporte patiemment la tentation ou l'épreuve dans une certaine version, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que Dieu promet à ceux qui l'aiment. » Selon ce texte de Jacques 1 au verset 12, « Si tu aimes le Seigneur, tiens ferme dans l'épreuve. » Parce qu'après l'épreuve, il y a la couronne qui te sera donnée. Mais je voudrais ce soir que nous explorions les deux côtés du test de Dieu. Dieu ne nous teste pas que dans les choses difficiles. Le but de l'épreuve, selon notre texte d'appui, a pour finalité que nous puissions être parfaits et accomplis sans faillir en rien. Dieu donc nous teste, nous éprouve, pas seulement avec les temps difficiles. Dieu nous éprouve aussi avec les temps favorables. Dieu nous refuse le travail pendant un temps ou même pour une longue période pour voir quelle est notre attitude. Pour voir si nous n'allons pas courir chez tous les marabouts, chez tous les sorciers ou au village pour nous faire laver, pour enlever la malédiction. Parce qu'il y a plusieurs chrétiens même qui, après un certain nombre de temps, on va leur dire, tu es sûr qu'il n'y a pas une malédiction sur ta tête? Et puis ils vont courir au village chercher les marabouts qui vont enlever la malédiction sur leur tête. Allez-vous courir vers ces personnes ou alors allez-vous attendre Dieu, vous attendre à Dieu, lui faire confiance et compter sur sa provision? Ça, c'est encore un test de Dieu. Alors plus tard, quand Dieu nous donne le travail, c'est encore un test, c'est encore une épreuve. Elle est peut-être moins dure, mais Dieu veut voir si nous allons continuer à être proches de lui, si, comme quand nous cherchions le travail, nous allons continuer à prendre du temps pour lui, à prendre du temps dans la prière, à prendre du temps dans l'évangélisation, à prendre du temps dans les visites, à prendre du temps dans les jeûnes. Dieu nous teste aussi par ces choses-là. Dieu nous teste avec le travail. Et quand le travail vient, on va dire à Dieu, « Ouais, Seigneur, c'est le patron qui m'a retenu depuis jusqu'à 23 heures. Je ne pouvais plus avoir le temps de prier. J'étais fatigué et c'est monté et c'est descendu. » C'est un test de Dieu. Quelle est notre fidélité quand nous n'avons pas le travail et quand nous avons le travail? Dieu nous donne la pauvreté et c'est aussi un test. C'est vrai qu'on va entendre des gens dire qu'un chrétien ne peut pas être pauvre. Mais il va falloir que ces personnes change ce que Dieu dit de l'église de Macédoine, qui était pauvre et vraiment très pauvre. Dieu nous éprouve par la pauvreté. Il y a des chrétiens qui, à cause du fait qu'ils n'ont pas beaucoup, deviennent à ce moment chiches même avec le peu qu'ils ont. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus partager le peu qu'ils ont parce qu'ils se disent on est pauvre, on ne peut pas donner. Si je donne ce que j'ai, qu'est-ce qu'il me restera? Que dit la Bible de la pauvre veuve? Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. C'était un test de Dieu. Et malheureusement, on ne nous parle plus de la suite de la vie de la femme, de la pauvre veuve. Mais je peux être sûr qu'après avoir donné tout ce qu'elle avait pour vivre, Dieu lui a donné pour qu'elle ne puisse manquer de rien. Comme il en a été dans le cas de la veuve de Sarepta et dans le cas de bien d'autres personnes qui ont mis Dieu à l'épreuve dans le don. Dieu nous teste par la pauvreté. Est-ce que dans cet état de pauvreté, nous allons prendre des appuis sur les hommes? Chercher l'oncle ou la tante ou le cousin qui est bien placé dans telle position ou pour aller tout le temps crier vers lui, est-ce que tu peux me dépanner, bien-aimé, ou est-ce que tu peux me soutenir? Est-ce que nous allons nous comporter de cette façon? Ou alors, allons-nous lever le regard vers Dieu, nous attendre à lui et crier à lui qui est Jéhovah qui pourvoit? Ou alors, à une autre situation, allons-nous passer le temps à prier pour briser les liens de la non-progression dans les affaires? Ou allons-nous continuer à aller dans toutes les nuits les prières et combattre les démons de « je ne travaille pas » et les démons de ceci? Allons-nous nous comporter ainsi ou lever le regard vers Dieu et dire comme le psalmiste « je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. » Et quand Dieu bénit, quand Dieu nous bénit, de pauvres que nous étions, Dieu nous éprouve encore. Comment allons-nous réagir quand nous avons vu nos biens augmenter, quand nous avons vu l'argent que nous avions être multiplié? Allons-nous multiplier maison sur maison, voiture sur voiture? Ou allons-nous demeurer dans la simplicité et vivre sobrement? Allons-nous nous enorgueillir et regarder les autres de haut en bas? Ou allons-nous avoir le même regard, le même amour pour le Seigneur, le même amour pour les frères avec qui nous avons marché et la même participation à l'œuvre du Seigneur? Dieu nous éprouve quand il nous donne. Dieu nous éprouve quand il ne nous donne pas. Dieu nous donne le mariage, c'est encore un test. Combien de mariés ne peuvent plus faire des nuits de prière aujourd'hui? Combien de mariés ne peuvent plus sortir pendant la nuit pour porter secours à un frère ou à une sœur qui est dans le besoin? Le mariage a certainement ralenti notre spontanéité à l'œuvre de Dieu, notre spontanéité à nous lever pour travailler à la gloire du Seigneur. Et quand alors on n'est pas marié, c'est encore un test de Dieu. Au lieu de servir Dieu dans son célibat, on court chez ceux qui brisent les liens du célibat, on jeûne et on prie pour briser les liens du célibat, on passe du temps à lier les démons du célibat. Et j'ai d'ailleurs écouté un pasteur sur ces mêmes ondes faire une telle prier pour briser les liens du célibat. Alors je me suis dit au fond de mon cœur pendant que j'écoutais devant ma radio, certainement ce pasteur il ne peut pas prêcher pour encourager les jeunes au célibat. Jamais il ne le fera. Pourtant l'apôtre Paul dit quoi? Celui qui marie sa fille fait bien, celui qui ne la marie pas fait mieux. Et l'apôtre Paul va dire par la suite, je préfère que vous soyez célibataire comme moi. Celui qui est marié s'occupe des affaires de son mariage. Celui qui est célibataire s'occupe des affaires du Seigneur. Je désire que tous vous soyez comme moi, c'est-à-dire célibataire. Le mariage ou le célibat, c'est encore un test de Dieu. Quand on est sans enfant, c'est un test de Dieu. Quand on a les enfants, Seigneur, tu vois que ce sont ces enfants-là. Il faut que je m'occupe d'eux. Je ne pouvais pas sortir parce qu'il y avait les enfants. On ne peut plus rien faire. On ne juge que par les enfants. Voilà un autre test. Bien-aimés, toute notre vie est un test, est une épreuve. Ce que tu as, ce que tu n'as pas, ce que Dieu te donne ou ce que Dieu te refuse, c'est un test. Dans chaque chose, comme dit l'apôtre Paul, comme dit l'apôtre Jacques, Dieu a un seul but, que nous soyons parfaits et accomplis sans faillir en rien. L'apôtre Paul dit, je sais vivre dans l'abondance et dans la disette. Prenez un chrétien aujourd'hui, placez-le dans la richesse, dans la gloire, dans les choses élevées. Ensuite, enlevez ces choses élevées. Enlevez-lui sa richesse. Il ne dira pas, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que la gloire soit à l'Éternel comme Job. Jamais il le dira. Non,
il maudira Dieu. Il commencera il va commencer à lier tous les démons de péché qui sont dans sa vie et confesser même les péchés qu'il n'a pas commis parce qu'il estime que on ne peut pas être élevé et être rabaissé. Non, on ne peut pas vivre cette humilité avec le Seigneur. Non, non, non. Ça ne marche pas. On va maudire Dieu. Dieu nous teste pour voir l'état de notre cœur. Et je me souviens toujours de cette histoire pour ma propre vie. Je venais d'avoir le baccalauréat et on m'a proposé de faire des concours pour pouvoir entrer dans la fonction publique et plus particulièrement le concours des policiers. Alors, j'ai décidé de faire le concours, j'ai fait les inspecteurs de police et j'ai fait les officiers. En fait, pour moi, j'avais eu un cursus académique ou scolaire parfait. Je suis le genre de garçon qui ne reprend pas, qui ne fait que passer de classe en classe, de sixième en terminale. Il ne connaît pas ce qu'on appelle l'échec. Il évolue comme il se doit. Alors, je me disais donc, et toutes les fois où je prêchais, où je parlais aux gens, Dieu est le succès. Si tu es à Jésus, tu ne peux pas échouer. Ça ne peut pas arriver. Et pendant donc que j'ai fait ces deux examens, le concours des officiers, je n'ai pas réussi. Le concours des inspecteurs est arrivé, je n'ai pas réussi. Alors quand j'ai regardé, mon cœur était gros. Et j'ai dit ce jour-là, je ne prie pas Dieu, je ne le loue pas. Et cette journée-là, je l'ai passée comme ça, dans l'amertume et dans la douleur. Et puis, c'est à peine si je n'ai pas insulté Dieu ce jour-là. Mais le soir, quand je suis revenu à moi-même, Dieu m'a dit, regarde l'état de ton cœur. Regarde comment tu es. Tu es ingrat. Tu es incapable de bénir Dieu pour tout ce qu'il a fait dans le passé. Aujourd'hui, tu regardes simplement qu'il t'a donné l'échec. Je t'ai montré cela pour que tu voyes que je suis capable de tout. Ce qui est important, ce qui permet que toi tu me loues, c'est parce que tu es dans le succès. Si tu es dans l'échec, tu ne me loueras pas. Et c'est l'attitude de beaucoup de chrétiens. Chers amis, puisque toutes ces choses nous enseignent à regarder à Dieu, détournons-nous des choses terrestres. Ces choses terrestres doivent passer. Et notre conduite doit être sainte par rapport à ces choses-là. Sachons vivre en toutes choses pour plaire à Dieu, dans les choses difficiles comme dans les choses faciles. Dieu nous teste, Dieu nous éprouve. Puisse Dieu nous bénir et nous accorder de garder sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.
En dépit de nombreux malheurs, reprends courage et n'aie plus encore un effort. Et rien qu'un effort. Viens à Jésus-Christ, ton sauveur, tu seras fort. Encore un effort. Et rien qu'un effort. Dis au Seigneur de tout ton cœur et tu seras fort. Et tu seras fort. Comme Joseph en Égypte. Face au mur de Jéricho, ou encore comme David face à Goliath.
Encore un effort. Sois fidèle avec Jésus et tu seras fort, car celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et puisqu'il est fort en toi, il te rendra également fort. Que le Seigneur soit béni pour ce message de ce soir que nous a communiqué par le bien-aimé pasteur Noé Constant Gachou. Au rythme de Dieu continue ce soir, bien aimé, vous pouvez dès à présent appeler, envoyer vos messages au 77 96 29 29. Vos interrogations seront les bienvenues, vos contributions seront les bienvenues pendant que nous allons continuer à partager sur le message que le Seigneur nous a accordé ce soir. Alors on peut comprendre déjà, pasteur Noé, que l'épreuve a une finalité double, mais qui se rejoint en fait, parce qu'on voit d'une part, c'est ressortir nos qualités, et également permettre à Dieu de porter un jugement sur nous.
Donc Dieu en fait, quand nous devenons enfants de Dieu, nous ne sommes pas parfaits. Allez, Dieu a des choses qu'il veut éprouver. C'est comme lorsqu'on extrait de l'or. L'or qu'on extrait n'est pas pur. Il contient beaucoup d'impuretés. Alors, on a Dieu, tout comme l'or qui est extrait, a envie de nous purifier et ensuite nous donner une forme. C'est-à-dire que quand on extrait l'or, certes, on le purifie, mais après l'avoir purifié, on lui donne une forme. C'est-à-dire, on peut décider de les mettre en lingots, tel qu'on voit souvent, lingots d'or, ou alors le mettre en forme circulaire. De toutes les façons, on donne à l'or une certaine forme. Dieu également, lorsqu'il nous purifie, il nous purifie à travers les épreuves par lesquelles il peut nous faire passer. Il révèle l'état de nos cœurs, il révèle nos motivations les plus enfouies. Et après cela, il nous donne une forme. Comme l'argile dans les mains du potier, il nous modèle à sa façon. Et l'épreuve contribue grandement, notamment arrivé là-bas. Pasteur, comme disait une fois, que la meilleure façon, si vous voyez un chrétien là, vous lui demandez, est-ce que tu voles? Elle dit que non, je ne vole pas. Bah, la meilleure façon de savoir qu'il vole ou qu'il ne vole pas, alors donne-lui les caisses, dans les caisses de gestion, et regarde son comportement face à cette caisse de gestion. Tu sauras s'il vole ou s'il ne vole pas. Parce qu'on ne peut pas pécher par les choses qu'on n'a pas dans son cœur. Si ces choses-là sont dans ton cœur, elles vont se manifester. Et le but de Dieu, ce n'est pas que tu te retrouves là-dedans, mais c'est de te révéler que c'est encore là et qu'il faut enlever. Et ça me donne de me souvenir quand Dieu avait envie de me révéler que j'avais encore le vol dans ma vie. Alors, je venais de croire et tout le monde était sorti de la maison. Moi, ce que j'aimais voler, c'était la viande. Généralement, quand on préparait la viande à la maison, on sait que l'enfant Gachou va voler la viande. Alors, j'étais seul à la maison et on avait posé la marmite au feu. Et comme il n'y avait personne, je suis allé à la cuisine. Et puis, j'ai pris le chiffon, j'ai ouvert le couvercle de la marmite et je m'apprêtais à prendre de la viande à l'intérieur. C'est où Dieu me dit au fond de mon cœur, tu vois que le vol est encore là. Et immédiatement, j'ai refermé la marmite et je suis ressorti en courant. J'ai compris qu'il fallait encore que je travaille la question du vol dans ma vie. Parce que c'est un dépouillement constant. C'est pas que Dieu nous tente par cela. Non. C'est tout était une épreuve. Est-ce que j'allais tenir? Est-ce que j'allais voir la viande devant moi et ne pas la manger? Et c'est différent de ce que le diable me met en face de quelque chose pour que je puisse tomber là-dedans. Dieu ne veut pas que nous tombions dans l'épreuve. Par contre, la tentation a pour but pour le diable de nous faire chuter. Dieu, lui, nous éprouve pour que nous soyons meilleurs. C'est en fait, c'est en ce qui concerne l'épreuve.
Nous voulons dire à l'auditeur du 77 69 98 87 que son message n'est pas complètement arrivé. Raison pour laquelle il y a un texte manquant, raison pour laquelle nous ne sommes pas en mesure de répondre à sa question. Donc l'auditeur du 77 69 98 87, il y a un texte manquant. Alors votre message n'est pas complètement arrivé. Nous regrettons de ne pouvoir répondre à votre question. Alors nous allons continuer notre partage. Alors pasteur, nous avons aussi retenu une chose, c'est que au lieu souvent d'extirper le mal que le Seigneur révèle dans notre vie, beaucoup de personnes qui se disent chrétiens sont devenus des champions pour plutôt s'attaquer à des démons. Mais il est aussi curieux que, en fait, si j'ai bien compris, ce n'est jamais un démon qui a trait à un péché, mais c'est plus un démon qui a trait à ce que le monde a élevé comme valeur.
Voilà, je pense que aujourd'hui dans le monde dans le courant de l'Église aujourd'hui, on n'accepte pas la souffrance. Ça c'est le problème, c'est qu'on n'accepte pas la souffrance, on n'accepte pas les temps difficiles, on n'accepte pas ce qui peut faire souffrir la chair. Je n'accepte pas que je sois dans une situation où on me dise voilà la stérile, voilà celle qui ne peut pas accoucher, ou voilà la femme qui ne peut pas se marier, ou voilà celle qui depuis 35, 45, 50 ans est dans la maison. Même le voisin ne demande pas, ne vient même pas dire que est-ce que Sylvie est là. Et puis on commence à culpabiliser comme si la faute nous était à nous de ne s'être pas marié. Et alors on cherche nos solutions, on cherche les moyens de parvenir au mariage. Et c'est dans cette situation que beaucoup de chrétiens arrivent même à épouser des mondains. Parce qu'ils ont tellement attendu le mariage qu'ils finissent par dire, bon, on va épouser un mondain et on va le convertir. Mais malheureusement, c'est très souvent les mondains qui réussissent à convertir les chrétiens. Parce que quand tu vas épouser un mari non chrétien et que dans le foyer, il va te dire que tu ne lis plus la Bible, tu ne vas plus à l'église, on va commencer à dire, mon mari me persécute. Il te persécute quoi? C'est toi qui as choisi de te retrouver dans cette situation. Alors ne dis pas que mon mari me persécute, tu as choisi librement. Donc la persécution nous amène, les temps difficiles nous amènent souvent à nous retrouver dans de telles situations. Mais j'aimerais encourager les bien-aimés ce matin, ce soir, à vraiment s'attendre à Dieu, vraiment à regarder à Dieu, quelle que soit la situation par laquelle ils peuvent passer.
Nous rendons grâce à Dieu pour Rosalie, car son message est complètement arrivé. Que le Seigneur soit glorifié. Donc nous allons le lire. Bien-aimé, je voudrais savoir s'il existe une différence entre avoir l'Esprit de Dieu et être rempli du Saint-Esprit. Explication, s'il vous plaît. Alors, Rosalie voudrait savoir s'il y a une différence entre avoir l'Esprit de Dieu et être rempli du Saint-Esprit. Elle souhaiterait également avoir des explications. C'est vrai que ça ne cadre pas beaucoup avec notre message, mais nous sommes aussi là pour ça, pasteur Noé.
Bon, de toutes les façons, je voudrais dire que la Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ n'appartient pas au Christ. Ça, c'est de façon automatique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être enfant de Dieu sans avoir l'Esprit de Christ. C'est l'Esprit de Christ, c'est l'Esprit par lequel nous sommes scellés pour la rédemption. C'est l'Esprit de la régénération. Ça, c'est une chose. Être rempli de l'Esprit de Dieu, c'en est une autre chose. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la plénitude de l'Esprit. La plénitude de l'Esprit, c'est un stade dans lequel on est totalement inondé et, je peux dire, utiliser le terme noyé dans l'Esprit de Dieu. On a l'Esprit de Dieu, mais en fonction de la liberté qu'on donne à l'Esprit de Dieu de pouvoir se manifester en nous, on est rempli de l'Esprit de Dieu. Et être rempli de l'Esprit de Dieu passe par la sanctification. Plus tu te sanctifies, plus tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Pas rempli de l'Esprit de Dieu comme si il y avait une portion qui devait être ajoutée. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Parce qu'il y a des gens qui vont nous demander de prier pour que Dieu déverse encore son Esprit sur vous. Non, quand on est devenu enfant de Dieu, on a l'Esprit de Dieu. Mais maintenant, quelle est l'autorité que l'Esprit de Dieu a par rapport à toi? Quelle est la liberté que tu donnes à l'Esprit de Dieu d'être manifesté en toi? Quand l'apôtre Paul va dire dans le livre d'un Thessaloniciens chapitre 5, n'éteignez pas l'Esprit, comment ça se passe qu'on éteigne l'Esprit? Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Plus nous compressons l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire plus nous empêchons à l'Esprit de Dieu de se manifester, plus nous faisons obstacle à l'Esprit par le péché que nous laissons entrer dans notre vie, nous arrivons à un niveau où nous voilons l'Esprit de Dieu, nous voilons la lumière de Christ qui est en nous et nous devenons nous-mêmes ténèbres. Donc c'est à ce niveau où on peut parler de, d'avoir éteint l'Esprit de Dieu. Être rempli, donc, c'est le contraire. Nous laissons à l'Esprit l'opportunité de gagner totalement notre personnalité.
Alors il est clair déjà qu'on ne peut pas être enfant de Dieu sans avoir l'Esprit. Et Christ, la Bible nous dit clairement dans le livre de Romains que si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on n'appartient pas à Christ. Alors quiconque a donné sa vie au Seigneur est sûr d'avoir l'Esprit de Dieu, parce que ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Ça ne dépend pas d'une sensation quelconque, ça ne dépend pas d'une certaine émotion ou de quoi que ce soit. C'est une vérité qui vient de la parole de Dieu, on doit la saisir par la foi. Et deuxième chose maintenant, je vais parler de la plénitude de l'Esprit, qui est en fait un style de vie. Tel que le Seigneur le décrit également dans le livre d'Éphésiens, du chapitre 4, verset 10, à partir du verset 17 jusqu'au chapitre 5, on nous parle effectivement d'un style de vie, le style de vie qui revient en fait à celui qui a connu la nouvelle naissance et qui marche à l'image de celui qui l'a créé. Et là, après avoir décrit ce style de vie, l'apôtre Paul conclut en disant: ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit de Dieu. Et il y a également, vous me permettez, pasteur, de dire cela, il y a également une plénitude qu'on peut appeler spéciale, qu'on voit essentiellement dans le livre des Actes des Apôtres. Quand nous sommes par exemple appelés à rendre ministère ou à communier avec le Seigneur, nous pourrons demander que le Seigneur nous remplisse également de son esprit. Pour cela, afin que nous puissions rendre efficacement ministère. Alors c'est pour ne pas, pour qu'il n'y ait pas de confusion dans l'esprit de...
Je voulais dire que... La plénitude de l'esprit, c'est pas un état permanent en réalité. C'est-à-dire que nous aurons atteint la totale plénitude de l'esprit quand nous ne pourrions plus jamais pécher devant Dieu. Alors nous atteindrons la plénitude de l'esprit. Nous voyons dans le livre d'Actes chapitre 2, au verset 4, il dit: et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. C'est pour exprimer ce que tu disais, William, tout à l'heure, par rapport à la mission que les disciples avaient envie d'accomplir. Et je voudrais qu'on fasse également la différence et qu'on soit mis en garde par rapport à ceux qui nous demandent de prier pour être baptisés du Saint-Esprit. Comme si le baptême du Saint-Esprit devait venir à un autre moment après que nous ayons cru. C'est-à-dire qu'on croit aujourd'hui et puis peut-être... on attend 10 ans pour être baptisé du Saint-Esprit et il faut prier pour ça. Non. Les thèmes qui sont utilisés dans la Bible pour décrire le baptême du Saint-Esprit et la réception du Saint-Esprit sont les mêmes choses. Être baptisé du Saint-Esprit, quand on a cru en Christ, on est baptisé du Saint-Esprit. Et la plénitude du Saint-Esprit, c'est quelque chose à venir. C'est-à-dire que nous travaillons pour être dans la plénitude du Saint-Esprit et la plénitude du Saint-Esprit donc accompagne, comme disait William, une mission que nous devons accomplir de façon ponctuelle. Nous prions, comme on dit, on prie: Seigneur, nous avons besoin de ton esprit pour nous conduire, pour nous remplir et pour nous guider dans toutes choses. Et l'Esprit de Dieu a l'opportunité d'agir et se manifester au travers de nous.
Que nous croyons, Rosalie, avoir apporté une lumière par rapport à ta question. Sinon, tu peux toujours nous relancer tant que nous sommes sur ces ondes, où nous partirons à ce qui sera 20h passées de 30 minutes. Alors pour revenir sur notre thème, pasteur Noé Rostangachou, sur les épreuves, nous devons aussi comprendre qu'en fait, la Bible nous dit que là où est notre trésor, là où se trouve notre cœur, et que le Seigneur use également des épreuves pour nous démontrer où se trouve notre trésor.
Ça c'est tout à fait évident.
Nous avons un auditeur en ligne. Allô?
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Je m'appelle Odile et je voudrais participer au thème de ce jour par un petit chant, si vous permettez.
Vous avez notre permission.
Merci. Quand Dieu te fait passer au feu pour t'éprouver, ce n'est que pour te purifier. Ne t'étonne donc pas devant ce chemin-là, l'obéissance s'apprend ainsi. Fortifie en marchant, les genoux fléchissant, quand ton pas soit ferme sur ta voie. Que la joie dit l'espoir, toujours.
Merci, merci Odile. Elle ressort dans son chant, de ce que j'ai noté, l'épreuve est un chemin de l'obéissance. Alors, le chemin, c'est un nous fait passer par l'épreuve pour nous enseigner l'obéissance, pour nous enseigner à lui faire confiance. Et nous ne devons pas nous étonner, évidemment, que les épreuves arrivent dans notre vie. Si Dieu n'éprouve pas un chrétien, c'est comme si Dieu ne veut pas que ce chrétien avance. Donc, pour revenir à la question de tout à l'heure, Dieu va donc s'attaquer à ce qui tient notre cœur en réalité. Parce que pour qu'on teste, il faut qu'on se rassure qu'il y a un domaine qui ne tienne pas. Par exemple, lorsqu'on on voit avec l'homme riche, quand il vient vers Jésus pour lui dire « Bon, mais qu'est-ce que je dois faire pour hériter du royaume des cieux ?» Et que Jésus lui dit « Va, vends tous tes biens, partage le revenu aux pauvres. » Est-ce que véritablement Dieu, Jésus voulait qu'il soit pauvre? Je ne pense pas que ce soit le sens premier pour lequel Jésus voulait lui parler. Jésus voulait qu'il comprenne qu'il est attaché à ses richesses. Et c'est ce qui s'est effectivement manifesté quand on a parlé à ses richesses. Satan l'a dit dans son cœur, tout sauf mes richesses. Et c'est comme ça, c'est notre réaction très souvent devant Dieu. Quand Dieu décide de toucher le point sensible de notre vie, nous avons deux réactions. Soit nous lui disons, Seigneur, à toi soit la gloire, je me soumets à ta volonté. Soit on rebondit et on fait, on réveille le vieil homme, comme on dit souvent. C'est-à-dire que, en fait, à ce moment-là, le vieil homme n'est pas mort. C'est-à-dire que il a encore le pouvoir sur notre vie, il a encore l'autorité de se manifester. C'est pourquoi il peut réagir. Quand Dieu, je vais encore prendre un autre exemple pour ma propre vie. Avant que je donne ma vie au Seigneur, j'étais également très colérique. C'est-à-dire, la moindre chose me mettait en colère. J'étais toujours prêt à exploser. Et j'ai prié et pour un temps, ça avait totalement disparu. C'était difficile que je me mette en colère jusqu'à ce que je me marie. Et quand je me suis donc marié, mon épouse fait une chose, je m'enflamme, elle fait une autre chose, je m'enflamme. Et elle savait, en réalité, puisque je lui avais déjà dit que, en fait, j'étais très colérique avant. Et maintenant, elle m'a dit, je m'ai mis à côté de toi pour te montrer qu'il y a encore la colère là. Et il était un don important que je puisse traiter ça, que je puisse me retenir et faire violence par rapport à ma personnalité. Même si ce n'est pas encore totalement parti, j'ai fait beaucoup de progrès dans ce domaine-là pour ne plus m'enflammer, quelle que soit la dureté de ce qu'elle fait. Généralement, quand il y a un conflit, je prends le temps d'être calme d'abord, prendre tout le temps et de réagir après, quand il n'y a plus possibilité de rancœur ou de quoi que ce soit.
Merci Pasteur Noé. Là où est ton trésor, là également se trouve ton cœur. C'est sur ces notes que nous allons prendre une dernière pause avant de clore cette émission.
Oh,
Prends courage, n'abandonne pas d'Olivier Choa. C'est la dernière interpellation que nous vous donnons ce soir, chers amis auditeurs. Le Seigneur nous fait passer par nos moments d'épreuve afin de nous rendre meilleurs. Notre épreuve est appelée à produire dans nos vies la patience. Et nous devons sortir de nos moments d'épreuve étant davantage plus proches de Dieu, davantage soumis à Dieu, davantage consacrés à Dieu. Par ces moments, le Seigneur s'attaque aux forteresses qui se dressent contre lui dans nos vies pour que nous soyons totalement acquis à sa cause. Et nous bénissons le Seigneur pour tout cela, pour ce qu'il nous enseigne ce soir. Nous rendons grâce à Dieu également pour Rosalie et pour Odile qui ont intervenu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse également, vous qui n'avez pas fait signe, mais qui nous savons être à l'écoute de notre programme tous les mardis sur les fréquences de vie. Vous avez pu constater l'absence ce soir de notre bien-aimé pasteur Emmanuel Koum. C'est effectivement parce que nous avons annoncé depuis plusieurs semaines déjà un programme d'évangélisation dans la zone Bassa, PK 12, 13, 14. Et c'est la raison pour laquelle il n'est pas présent actuellement. Mais vous pouvez toujours le contacter au 94 35 44 54, 94 35 44 54 ou par email koum01@yahoo.com, koum01@yahoo.com. Et vous êtes également les bienvenus à la campagne qui se poursuit jusqu'au 23. Premièrement par les porte-à-porte dans la zone que nous avons donnée, PK 12, 13, 14, par les projections également à partir de samedi, ou tout juste à Bassa, en face de Citabac, également à des prédications en plein air. Vous serez les bienvenus. Nous rappelons également que nous mettons à votre disposition le matériel de Sono pour toutes vos actions de grâce, vos célébrations à l'honneur de Dieu, vos actions d'évangélisation. Et aussi la maison de retraite du kilomètre 12 qui est également disponible pour tous ceux qui veulent prendre un moment de retraite, qui veulent organiser des séminaires, des camps. Vous pouvez toujours nous contacter par le numéro de notre bien-aimé pasteur Emmanuel Koum. C'est sur ces notes, chers amis auditeurs, que nous allons mettre la clé sous le paillasson ce soir. Nous étions dans ce studio au pasteur Noenga Chou et William Domché, fils de Nubissi, enfant de Jésus-Christ. Désiré Chouya, la mise en onde, c'était au rythme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que vous donne de tenir vraiment ferme dans vos épreuves. Que vos cœurs soient dans le ciel, là où se trouvent les trésors cachés. Et ainsi vous tenez ferme jusqu'au bout, car le Seigneur lèvera toujours vos yeux vers ces choses qui ne périssent pas mais qui sont éternelles. Que le Seigneur vous bénisse et à mardi prochain par la grâce de Dieu.
Sous la direction de son pasteur Emmanuel Koum, vous convie tous les mardis entre 20h30 et 21h30 à une réflexion sur la vie chrétienne aujourd'hui. Au rythme de Dieu, c'est les messages, prédications, enseignements, débats, conférences, interactivité, le tout arrosé par de la très bonne musique. Notez le rendez-vous mardi 20h30, 21h30. Venez et ensemble, marchons à la suite de Jésus.